Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Yeriak et John Lindon en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du jeudi 8 septembre 2016. Au sommaire ce soir.
Crise post-électorale gabonaise, c'était aujourd'hui la date limite pour le dépôt des recours devant la Cour constitutionnelle.
Et l'opposant Jean Ping a bien déposé son recours. La crise burundaise discutée au sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est à Dar es Salaam.
Importante découverte d'armes de guerre et des munitions à Tombouctou, au Mali.
Ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine.
Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
Crise post-électorale au Gabon. L'opposant Jean Ping a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle pour contester les résultats de la présidentielle du 27 août, remportée par le président sortant Ali Bongo Ondimba, selon un communiqué de son équipe de campagne. Il s'agit d'une requête en réformation de la proclamation des résultats de l'élection dans la province du Haut-Ouégué, fief familial des Bongo, qui a permis, selon les résultats officiels, la victoire sur le fil du président sortant.
Gabon toujours, la mission des chefs d'État que l'Union africaine se proposait d'envoyer à Libreville pour aider à trouver une solution à la crise a été reportée sine die. C'est ce qu'a fait savoir le chef de la diplomatie gabonaise, Emmanuel Izozet, qui a fait état d'un problème de calendrier.
Fin à Dar es Salaam, en Tanzanie, du 17e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. À l'ordre du jour, la crise burundaise, la coopération entre l'Union européenne et l'organisation, ainsi que le Sud-Soudan. Éric Manirakis a joint dans la capitale tanzanienne l'envoyé spécial de VOA Afrique, Pierre Claver Niyankuru.
Le 17e sommet condamne fermement la crise au Burundi qui vient de passer presque une année. Le président de cette communauté africaine, Jean-Paul Magufuli, en même temps le président tanzanien, a dit que c'est grave que des vies humaines continuent à tomber, des têtes continuent à tomber. Il a donné par exemple le cas le plus récent de l'honorable Samosi de l'East African Community qui a été assassiné à Bujumbura le 13 juillet 2016. Ce sommet a recommandé que les pourparlers reprennent directement et que toutes les parties en conflit soient conviées à ces assises. Ce sommet a remercié justement à Benjamin Mkapa d'avoir essayé de rencontrer toutes les parties en conflit et toutes les forces vives de la nation. Et ce sommet a donné un exemple des pourparlers qui se sont tenus à Arusha, des assises de Bruxelles qui ont rencontré l'opposition. Et ce sommet a également reçu le rapport de Benjamin Mkapa, mais les recommandations de ce rapport ne sont pas connues.
Découverte d'armes de guerre et des munitions à Tombouctou au Mali, la population avait informé la gendarmerie de la ville d'un mouvement suspect au niveau d'un bâtiment inhabité. Après une semaine d'enquête, les gendarmes ont trouvé la cache. Kassim Traoré nous en dit plus.
C'est grâce au patriotisme d'un individu convaincu qui savait que sans la contribution des populations, il serait impossible pour les forces armées du Mali d'arriver à bout de leur mission. C'est ainsi qu'il informa le mardi 30 août 2016 la gendarmerie de Tombouctou d'activités peu anormales au niveau d'une maison inhabitée. Les OPJ se sont mis à l'œuvre. À Badjindé, plein centre-ville, poumon de l'économie de Tombouctou, que mystérieusement, la gendarmerie nationale a pu mettre la main sur ces dépôts composés d'armes légères, de grenades offensives et défensives, des PA, des lance-roquettes, des obus de mortier de 60 à 80 mm, ainsi qu'une importante quantité de munitions de guerre. L'auteur de ce forfait, selon les enquêteurs, est en fuite. Quant à l'opération, elle suit son cours normal. Rappelons que la même unité de la gendarmerie basée à Tombouctou, sous le commandement du chef d'escadron Siaka Diakité, un certain Oumar Ibrahim Aïdra, ex-militant de Mujao, a été arrêté à Tombouctou. Ce dernier a reconnu avoir collaboré avec le Mujao en 2012. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et toujours concernant la lutte contre le djihadisme au Sahel, Paris estime que la menace Boko Haram est endiguée. Le général Patrick Bretous indique que le groupe islamiste nigérian n'a plus que 2 réduits près du lac Tchad et dans la forêt de Sambisa. Ils sont en revanche toujours capables de faire des raids à Diffa dans le sud-est du Niger, estime-t-il. Le général affirme par ailleurs qu'aucun lien n'est établi entre Boko Haram et les organisations État islamique en Libye ou Al-Qaïda au Sahel.
La Côte d'Ivoire a annoncé la réouverture de ses frontières terrestres avec la Guinée et le Libéria. Elles étaient fermées depuis 2 ans en raison de l'épidémie d'Ebola qui sévissait chez ses 2 voisins.
Une grève se profile au Tchad. L'Union des syndicats du pays appelle ses militants à observer un arrêt de travail à partir de demain. Ils protestent contre le non-paiement des pensions des retraités, des subsides des maîtres communautaires et du salaire des fonctionnaires pour les mois de juillet et août. Le syndicat des enseignants du Tchad, section de la commune de N'Djamena, entre également en grève à partir de demain pour exiger le paiement de salaire du mois d'août.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Conflit en Syrie, John Kerry, le secrétaire d'État américain, devrait, selon le ministère russe des Affaires étrangères, rencontrer aujourd'hui et demain à Genève son homologue russe, Sergei Lavrov, pour discuter de la question. Le point avec Eddie Isango.
Le département d'État américain n'a pas confirmé que la rencontre s'est tenue aujourd'hui, mais a préféré parler d'imminents pour parler entre les deux personnalités. Ce qui est sûr, c'est que Sergei Lavrov et John Kerry ont eu hier une conversation téléphonique autour des détails de l'accord sur une coopération russo-américaine. L'accord concernera la lutte contre les groupes terroristes en Syrie, l'extension de l'aide humanitaire et le lancement du processus politique, selon le ministère russe des Affaires étrangères. Côté américain, et selon les critiques, l'administration Obama semble vouloir négocier en position de faiblesse avec la Russie, mais le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, a dans une interview sur BBC précisé aujourd'hui que les États-Unis étaient prêts à collaborer avec la Russie pour mettre un terme au conflit syrien, mais les conditionnerait à une véritable cessation des hostilités préalables. Moscou n'a pas, selon M. Carter, aidé Washington à se rapprocher d'une solution politique qui verrait les présidents syriens, Bachar al-Assad, démissionner et un nouveau gouvernement incluant l'opposition modérée lui succéder.
La rapporteuse spéciale de l'ONU sur la traite des personnes a appelé le Koweït à abolir la kafala, un système de parrainage qui permet notamment aux employeurs d'empêcher que les travailleurs étrangers puissent partir ou changer d'emploi. Ce système est souvent assimilé à de l'esclavage moderne et dénoncé. La pratique est courante dans les 6 monarchies du Conseil de coopération du Golfe où vivent et travaillent quelque 25 millions d'expatriés.
Plus de 100 000 réfugiés afghans ont été rapatriés du Pakistan depuis hier, a annoncé aujourd'hui le Haut Commissariat aux réfugiés, soit le plus grand nombre depuis la chute des talibans en 2002. Le Pakistan, qui accueille quelque 1,5 million de réfugiés afghans, a enregistré environ le même nombre de sans-papiers, a affirmé que ces retours étaient dus à son durcissement des contrôles aux frontières.
L'ancien pape Benoît XVI n'a aucun regret d'avoir démissionné et remercie Dieu pour cette décision qui lui a rendu sa liberté, selon un livre d'entretien à paraître demain en Allemagne. L'ouvrage ne contient aucune révélation sur le scandale des prêtres pédophiles. Et s'il reconnaît que sa décision en février 2013 d'être le premier pape en 7 siècles à démissionner n'a bien sûr pas été facile. Joseph Ratzinger souligne que c'était le bon moment. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le Nigeria va emprunter à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement, à la Banque chinoise Exim et à l'Agence de coopération internationale du Japon. Ces fonds, dont le montant n'a pas été révélé, seront essentiellement destinés au secteur de l'agriculture, de l'énergie, des mines et de la santé. Le pays, qui dépend du pétrole à hauteur de 70% de son budget, manque cruellement de devises étrangères et est entré en récession. Il n'a jamais diversifié son économie en 50 ans d'extraction et est frappé de plein fouet par la chute depuis la mi-2014 des cours du baril. Arrêt du trafic ferroviaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il sera interrompu pendant au moins une quinzaine de jours. La ligne de chemin de fer qui relie la Côte d'Ivoire et le Burkina doit être rénovée et prolongée dans les années à venir pour un coût de 400 millions d'euros. Un rapport de la Banque mondiale publié aujourd'hui précise que la pollution atmosphérique entraîne un manque à gagner de centaines de milliards de dollars pour l'économie mondiale. Devenu le quatrième facteur de décès prématuré dans le monde, la pollution de l'air ambiant a tué 2,9 millions de personnes en 2013. Ce chiffre a atteint 5,5 millions de morts si l'on y ajoute les effets de la pollution dans les foyers. Enfin, au Brésil, plus de 500 000 employés de banques ont entamé mardi une grève illimitée dans tout le pays pour réclamer de meilleurs salaires. La grève touchait aussi bien les banques privées que publiques qui étaient fermées mardi. Les syndicats réclament une augmentation de 14,78%.
Un feu sur les stades, les sports avec Jacques Aristide. Rio de Janeiro a lancé hier ses Jeux paralympiques en samba dans son mythique stade Maracana, archi-comble et en liesse. Jacques.
Oui, mais avec des spectateurs qui ont massivement conspué le nouveau et contesté président brésilien Michel Temer. Autre fausse note dans cette cérémonie d'ouverture des premiers Paralympiques d'Amérique latine, 17 jours après la fin des JO, l'absence remarquée du patron du CIO, Thomas Bach, qui a alimenté les spéculations des médias brésiliens. Jusqu'au 18 septembre, 4342 athlètes de 159 nations vont rivaliser dans 22 disciplines. Avec pour objectif d'oublier et de faire oublier leur handicap. Les premières compétitions débutent ce jeudi avec notamment du tir, du tennis de table, de la natation ou encore du basket en fauteuil.
Mondial 2006, simple amende requise contre l'ex-secrétaire général de la Fédération allemande.
En effet, la commission d'éthique de la FIFA a recommandé une amende de près de 46 000 euros à l'encontre d'Helmut Sandrock après l'enquête sur les conditions d'attribution de la Coupe du Monde 2006 à l'Allemagne. L'enquête visait également l'ancien capitaine allemand Franz Beckenbauer, mais aussi Wolfgang Niersbach, ancien président de la Fédération allemande. Beckenbauer est poursuivi par la justice suisse pour gestion déloyale, escroquerie et blanchiment d'argent.
Autre scandale, Jacques, en Sierra Leone, trois responsables de la Fédération de football arrêtés pour corruption présumée.
Oui, il s'agit de la présidente de la Fédération, Isha Johansen, son vice-président Brima Camara et son secrétaire général Chris Camara, appréhendés en lien avec des incohérences dans le rapport financier de la Fédération concernant des fonds publics et des dons d'un montant de 3,5 millions de dollars. L'enquête concerne les fonds alloués par la FIFA et par le gouvernement Sierra Leone à la Fédération. Les trois dirigeants nient les accusations portées contre eux, soupçonnant la commission anticorruption du pays d'ingérence politique. Madame Johansen possède son propre club de football, le FC Johansen, club de première division créé en 2004. Elle est la première femme à diriger la fédération de football du pays. Elle siège également au sein d'un comité de la FIFA.
Et US Open, pour terminer, Jacques, seuls Novak Djokovic et Stan Wawrinka, respectivement N1 et N3 au classement ATP, se sont frayés un chemin jusqu'aux demi-finales.
Oui, demain, Djokovic affrontera le Français Gaël Monfils qui semble enfin à 30 ans avoir compris comment tirer le meilleur de son formidable talent, tandis que Wawrinka, qui a mis fin au prometteur parcours de l'Argentin Juan Martín del Potro, sera opposé au Japonais Kei Nishikori, décidément très à l'aise à New York. Nishikori, qui a éliminé le Britannique Andy Murray hier, au terme d'un match à suspense en quart. Chez les dames, Serena Williams dispute pour la sixième fois de rang les demi-finales de l'US Open. Elle va affronter la Tchèque Karolina Pliskova.
Merci Jacques.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Morgane Guiriec et John Lindon en votre compagnie. Place au dossier du jour.
Retour ce soir sur l'accident ferroviaire dû à l'effondrement du pont du fleuve Nzi, mardi à Dimbokro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Le train de marchandises qui reliait Abidjan à Ouagadougou au Burkina Faso comportait 2 locomotives et 20 wagons transportant plus de 1000 tonnes de marchandises. Le trafic ferroviaire entre les deux États sera interrompu pour au moins 2 semaines, annoncent les responsables de la compagnie Citarail qui gère le trafic. Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Karim Gadiaga, journaliste à l'Économiste du Faso.
La ligne de chemin de fer Burkina-Côte d'Ivoire est présentée en quelque sorte comme le cordon ombilical entre les deux pays sur le plan des échanges commerciaux. Et chaque année, c'est près de 300 000 voyageurs qui voyagent par les trains et 900 000 tonnes de marchandises qui sont transitées en tout cas entre les deux pays et via les trains. Donc du coup, cette ligne-là a une importance capitale, en tout cas en termes commerciaux et entre les deux pays.
On nous annonce que la communication va être interrompue pour au moins 2 semaines à cause de l'accident qui a eu lieu à Dimbokro. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le plan économique?
Sur le plan économique, déjà de façon immédiate, puisque nous sommes en plein préparatif de la fête des Tabaski, la fête de l'Aïd El Kébi, où effectivement il y a le mouton qui est consommé au niveau de la Côte d'Ivoire, et ce mouton qui est consommé de la Côte d'Ivoire au niveau de la Côte d'Ivoire transite en tout cas en provenance du Burkina et puis des autres pays sahéliens, notamment le Niger et le Mali. Et tous ces animaux-là sont transités par les trains à destination de la Côte d'Ivoire. Donc, de façon immédiate, déjà, c'est le transport du bétail qui pourrait prendre, en tout cas, faire les frais de cet accident-là sur le chemin de fer. Et puis, à la longue aussi, c'est aussi, je le disais tantôt, puisque le chemin de fer a une importance capitale pour le transport des marchandises entre les deux pays, notamment les minerais et les matériaux comme le pétrole, les ciments et autres. Donc du coup, c'est tout le transport de toutes ces marchandises-là qui pourraient, en tout cas à un moment donné, connaître des difficultés en attendant que la ligne soit rétablie.
Est-ce qu'il faut voir dans cet accident l'entretien du chemin de fer qui est quand même assez ancien, hein?
Effectivement, vous posez une question qui est très juste parce qu'il était prévu, en tout cas à l'occasion de la signature du nouveau contrat de concession en début d'année 2016, voilà, il était prévu la réfection de cette ligne-là et cette réfection devait quand même coûter près de 262 milliards et prévu sur 5 ans. Bon, du coup, l'accident arrive et avant le démarrage de ces travaux et prouve du coup que effectivement il y a un besoin réel de réfection de la ligne.
Karim Gadiaga, journaliste à l'Économiste du Faso.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Bénin est bien décidé à reconstruire son patrimoine et valoriser sa diversité culturelle. Le président Patrice Talon demande la restitution d'objets sacrés et œuvres d'art pillés ou offerts dans le passé et qui sont aujourd'hui entreposés dans les musées de l'ancienne puissance coloniale. De Cotonou.
Pour beaucoup, il était temps qu'après la conférence
Ginette Fleur à Dandé.
de la nation de février 1990. Quelqu'un prenne la décision de se fier aux exigences de la charte culturelle qui demandait la reconstitution du patrimoine culturel du Bénin.
Décision salutaire, courageuse, parce que ce n'est pas évident. Ce serait toujours une bonne chose que de permettre aux nouvelles générations de pouvoir aller se ressourcer en un endroit sûr où ils peuvent facilement avoir un peu plus d'informations sur ce qui a eu de par le passé, sur l'histoire du Bénin.
C'est parce que d'autres pays l'ont réussi qu'aujourd'hui le Bénin estime que lui aussi, il peut aller sur la même voie.
Mais passer la bonne bouffée de joie et de patriotisme, les vraies questions reviennent sur le tapis concernant cette entreprise. Certains pensent que le chef de l'État s'est empressé de prendre une décision sans tenir compte des réalités intrinsèques d'un patrimoine tel que celui qu'on demande le rapatriement. C'est le cas de Franck Ogou, expert dans le domaine. Il est en fonction à l'école du patrimoine africain.
Dans le cadre des rapatriements des biens volés ou pillés, il y a la convention unie droit que les États parties signent afin de s'entendre sur des cas éventuels de rapatriement de biens. Et sur ce point, il faut préciser que la France n'a pas signé la Convention unie droit et donc n'est pas concernée par le rapatriement des biens culturels pillés en Afrique. Il faut également dire que pour que cela puisse se faire, il faut voir le contenu des accords bilatéraux entre la France et le Bénin, voir si ces accords-là prévoient éventuellement ces cas de rapatriement.
C'est la même rengaine chez Pascal Wanou, ancien directeur du plus prestigieux Festival de théâtre du Bénin. Il pense pour sa part que le gouvernement ne doit sous aucun prétexte brandir la force pour récupérer des objets qui ont été jalousement gardés par les bons soins de la France.
Et la politique nationale du Bénin en matière culturelle recommande que l'État béninois aille en négociation. C'est une négociation. Il ne s'agit pas de réclamer quelque chose qu'on en soit disant volé, non?
Mais le Bénin a-t-il les moyens et les stratégies de conservation de ses anciens trésors? Là se trouve toute la question. En attendant, les Béninois caressent le rêve de pouvoir se compter parmi ceux qui verront un jour peut-être les objets du très emblématique roi béhanzin dont la déportation avait orchestré le pillage de son palais, lieu chargé d'histoire mais aussi de trésors royaux de Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou, 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Le parti du président zimbabwéen Robert Mugabe prive les partisans de l'opposition de l'aide alimentaire d'urgence destinée à pallier les pénuries de nourriture dues à la sécheresse, a accusé hier une commission des défenses et des droits de l'homme. Le point avec Nanit Talani.
Elasto Mugwadi, le chef de la Commission des droits de l'homme au Zimbabwe, dont les membres sont pourtant nommés par le gouvernement, a affirmé que des membres du parti au pouvoir sont responsables d'abus dans la distribution de nourriture. Elasto Mugwadi dénonce que des jeunes de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique, le parti au pouvoir, ont ouvertement dit aux militants de l'opposition qu'ils n'obtiendraient pas d'aide alimentaire. Il a aussi expliqué que cela concernait plusieurs régions rurales du pays. Pourtant, les responsables doivent garantir l'impartialité dans la distribution de l'aide. Le défenseur des droits de l'homme a par ailleurs affirmé, sans plus de précision, que ces militants n'étaient pas censés participer à la distribution de nourriture et qu'un grand nombre de personnes étaient victimes de ces restrictions. Pour lui, les responsables doivent garantir l'impartialité dans la distribution de l'aide. Le principal parti d'opposition au Zimbabwe, le Mouvement pour le changement démocratique, accuse régulièrement le parti au pouvoir de réserver l'aide alimentaire à ses militants. Le porte-parole du parti incriminé n'a pas encore réagi à ces accusations. Depuis plusieurs semaines, le pays est secoué par des manifestations réclamant le départ de Robert Mugabe, âgé de 92 ans, et accusé de ruiner l'économie du pays. Le gouvernement du Zimbabwe avait déclaré en début de cette année avoir besoin d'1,5 milliard de dollars d'aide étrangère pour éviter la famine qui menaçait 4,5 millions de personnes, presque la moitié de sa population rurale. La sécheresse qui frappe l'Afrique australe a aggravé la situation économique déjà précaire du Zimbabwe. Plusieurs autres pays de cette région de l'Afrique, comme le Malawi, ont déclaré l'état de catastrophe naturelle à cause de la sécheresse qui a détruit les récoltes et tué des milliers de têtes de bétail.
présidentielle américaine 2016, les deux principaux candidats, la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump, ont participé hier soir à un forum sur la sécurité nationale sur l'USS Intrepid, porte-avions transformé en musée dans le port de New York. Les deux rivaux ont apparu séparément devant des vétérans des guerres d'Afghanistan et d'Irak lors du forum du commandant en chef diffusé sur la chaîne NBC. Alors pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec le politologue Daniel Di Salvo de City College of New York.
C'était un forum très intéressant parce que ça va, c'est un sens imprévu au débat en présidentiel qui vont venir à la fin du mois de septembre. Je pense que la première chose importante de ce débat, c'était que l'expérience pour Hillary Clinton, elle a beaucoup plus d'expérience dans le domaine de la sécurité nationale. C'est à la fois un avantage, mais aussi un désavantage. Elle connaissait très très bien tous les dossiers, mais c'est pas tout à fait clair que le grand public s'intéresse des détails. Et Donald Trump connaît pas les détails ni les dossiers, donc c'était beaucoup plus difficile pour entrer dans un vrai débat. Ça marche dans distincts niveaux, on peut dire.
Hillary Clinton a dû se justifier sur l'utilisation de ses courriels lorsqu'elle était secrétaire d'État, tandis que Donald Trump a tenté de minimiser les inquiétudes sur son tempérament. Les deux candidats étaient-ils donc sur la défensive?
Oui, c'était très intéressant parce que Hillary Clinton doit défendre son record, son expérience, mais Donald Trump, il n'a pas de record ni expérience. Donc, c'est très difficile de juger les deux candidats. Le grand public peut juger Hillary Clinton, mais ils vont juger Donald Trump pour ce qu'ils disent. Ils disent qu'il a un très bon tempérament, mais il n'y a pas vraiment d'évidence qu'il a vraiment pris des décisions dans le domaine des affaires étrangères.
Beaucoup de commentaires également sur la déclaration de Donald Trump selon laquelle le président russe Vladimir Poutine fait un meilleur chef d'État que Barack Obama. Cela aura-t-il un quelconque impact sur la campagne de Trump?
C'est très difficile à dire. Trump a défié toutes les règles de l'enjeu politique aux États-Unis dans sa campagne, mais je peux dire que c'est très rare, c'est bizarre. Nous n'avons jamais eu un candidat à la présidentielle depuis la Deuxième Guerre mondiale qui était aussi favorable à la Russie et à son leader que Donald Trump, ni du Parti démocrate, ni chez les républicains. Donc c'est Donald Trump, dans cet aspect, c'est tout à fait distinct. Si ça a un impact sur la campagne, c'est très difficile à dire. On peut imaginer que pour les républicains qui ont traditionnellement vu la Russie comme une ennemie, ça pourrait avoir un effet négatif, mais c'est très difficile à dire avec Donald Trump parce qu'il n'obéit pas les règles de l'enjeu politique.
Le professeur Daniel Di Salvo de City College of New York.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition des Saleng. Mekonnen a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Chiang Wang à la console. Présentation, Morgane Guiriec et John Linden.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Et merci à nos fans sur Facebook. 1 700 000, on maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM,
à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.